Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition consacrée à Taïwan. Dimanche dernier, Tsai Ing-wen sortait triomphante des élections générales et était reconduite dans sa fonction de présidente de la République de Chine, non officielle de Taïwan, 23 millions d'habitants. Une réélection confortable avec 57% des suffrages et une majorité renforcée pour son parti démocratique progressiste. Regard sur l'avenir de Taïwan avec nos invités. Mathieu Duchâtel, directeur du programme Asie à l'Institut Montaigne, auteur de plusieurs ouvrages dont Géopolitique de la Chine aux éditions Que sais-je. Bonjour.
Bonjour.
Et Emmanuel Dubois de Prisque, chercheur associé à l'Institut Thomas More, co-auteur avec Sophie Boisseau du Rocher de La Chine et le Monde aux éditions Odile Jacob. Bonjour.
Bonjour.
En quoi la réélection de Tsai Ing-wen peut-elle constituer un tournant dans l'histoire de Taïwan, l'île rebelle où se réfugièrent les forces de Chiang Kai-shek après leur défaite face aux communistes en 1949, il y a donc 70 ans. Mathieu Duchâtel, que change pour Taïwan le résultat de ce scrutin ?
Alors, comme vous l'avez dit, on est dans une réélection. Et donc, il y a une certaine continuité dans la politique que va mener Tsai Ing-wen à l'égard de la Chine et à l'égard de ses partenaires américains et japonais. Ce qui change vraiment, je crois, c'est d'abord qu'il y a une véritable confirmation par ce scrutin du choix stratégique de Taïwan en une année où la question était posée à Taïwan avec ses élections, de positionnement stratégique extrêmement clair dans un environnement d'affrontement sino-américain. Taïwan choisit le camp nippo-américain. Taïwan choisit de se positionner dans cette guerre économique, commerciale et technologique avec les États-Unis et avec les Japonais. Et Taïwan choisit, je pense que c'est l'un des messages les plus forts de cette élection, de finalement mesurer ou modérer sa dépendance économique envers la Chine, qui était finalement l'option qui était présentée à Taïwan depuis une vingtaine d'années. C'est-à-dire que, et c'est ce que proposait l'opposition Kuomintang, que l'avenir de Taïwan, c'est dans une croissance économique liée à la croissance chinoise. Là, on est dans un environnement où Taïwan a une option. Taïwan peut rééquilibrer son déploiement économique en dehors des relations avec le continent chinois, en Asie du Sud-Est, avec les États-Unis, avec le Japon. Et c'est comme ça qu'il faut interpréter cette élection.
Emmanuel Dubois de Prisque, en réaction avec ce que vient de dire Mathieu Duchâtel.
Oui, je pense que c'est assez juste. C'est vrai que l'opposition du Kuomintang, enfin c'est tout à fait juste, pardon, l'opposition du Kuomintang se trouvait un petit peu en porte-à-faux avec les évolutions économiques récentes, puisque Taïwan bénéficie en fait de la rivalité sino-américaine qui prend de l'ampleur depuis l'arrivée de Donald Trump au pouvoir. Il y a de l'argent qui... pendant longtemps partait de l'île et allait sur le continent et qui aujourd'hui fait le trajet inverse. Donc il y a des réinvestissements à Taïwan qui sont relativement importants et Taïwan bénéficie plutôt donc économiquement de cette rivalité. Alors qu'auparavant, le grand argument de Ma Ying-jeou, donc le prédécesseur de Tsai Ing-wen à la présidence de la République de Chine, Taïwan, entre 2008 et 2016, c'était justement qu'il fallait être raisonnable et savoir oublier un petit peu les volontés de souveraineté trop forte de la population taïwanaise pour s'entendre avec les Chinois, avec l'idée selon laquelle cette entente bénéficierait à tout le monde économiquement. Mmh. Et ce discours, d'une certaine façon, ne fonctionne plus aujourd'hui, puisque la croissance se situe peut-être ailleurs qu'en Chine aujourd'hui.
Alors, ce qui est intéressant, et on poursuivra sur les facteurs externes à la réélection de Madame Tsai Ing-wen, je voudrais revenir avec vous, Mathieu Duchâtel, sur les facteurs internes. Le générationnel qui a joué beaucoup sur cette réélection, expliquez-nous.
Alors, il y a une question de clarté de l'offre des partis. L'identité taïwanaise, les sondages le montrent, est partagée entre une identification à Taïwan et une identification à la Chine. Mais ces dernières années, on arrive quand même à des chiffres qui sont extrêmement clairs. On a une majorité de la population taïwanaise, aujourd'hui 57%, qui se considère exclusivement taïwanaise. On a ensuite un tiers de la population qui se considère à la fois taïwanais et à la fois chinois, et une minorité qui se considère plutôt chinoise. C'est un phénomène, cette identité taïwanaise, qui est bien plus fort chez les jeunes générations. C'est vraiment un phénomène accentué dans la nouvelle génération. C'est un phénomène qui est à la fois capté par le Parti démocratique progressiste et par Tsai Ing-wen, mais qui est aussi encouragé par sa politique d'éducation et donc qui progresse au fil des années. Et de l'autre côté, on a un parti d'opposition, le Kuomintang, qui reste très attaché à son histoire sur le continent chinois, aux institutions de la République de Chine, à rester ouvert sur la possibilité d'une unification future avec le continent chinois, donc qui capte plutôt cette partie de la société qui est dans une identité à la fois taïwanaise et chinoise. Et donc à l'heure du choix, et au moment où les nouvelles générations ont le droit de vote, on a bien sûr une situation interne qui favorise l'offre identitaire, et qui finalement est défensivement identitaire, du Parti démocratique progressiste.
Alors, on me dit que Stéphane Corcuff nous a rejoint. Stéphane Corcuff, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sinologue et enseignant à l'Institut d'études politiques de Lyon. On a dressé avec Mathieu Duchâtel et Emmanuel Dubois de Prisque un panorama de l'élection qui a eu cours la semaine dernière et qui a donc vu la réélection de Madame Tsai Ing-wen à Taïwan. J'aimerais qu'on se pose un tout petit peu sur le parti d'opposition qu'évoquait à l'instant Mathieu Duchâtel, le Kuomintang. Est-ce que c'est une défaite d'un programme ou c'est un problème de leadership pour ce parti? Et quel avenir finalement pour le Kuomintang aujourd'hui à Taïwan?
Je pense que c'est un petit peu les deux défaites de programme dans la mesure où en fait le programme du Kuomintang est à la fois, j'ai envie de dire, très simple, irréalisable et un petit peu inexistant, et une question de leader. Pour la question du programme, en fait, le programme du Kuomintang, quand on leur demande, quand on leur pose la question, il y a en gros un thème et un seul, c'est l'économie. Alors l'économie dans sa situation géopolitique, c'est-à-dire ils font un pari de pouvoir être les seuls à conserver des bonnes relations avec la Chine et dans ce cadre-là, de pouvoir développer des relations économiques qui seraient favorables à Taïwan. Alors, en disant ça, ils jouent un petit peu sur l'idée générale que le parti au pouvoir aujourd'hui, irritant Pékin, n'est pas à même de bâtir des bonnes relations avec l'économie chinoise et qu'ils sont les seuls à pouvoir le faire. Dans les faits, on l'a vu sous la présidence précédente de Ma Ying-jeou, qui a terminé il y a 4 ans, les bénéfices engrangés sur le plan économique n'étaient pas du tout conformes à ces promesses-là. Parce que même si c'est le Kuomintang qui est au pouvoir à Taïwan, la Chine ne perd pas de vue son objectif ultime, c'est quand même de faire revenir cette province et faire disparaître la République de Chine. Voilà. Bon, donc le programme est assez limité et j'ai envie de dire il est même inexistant pour une raison très simple, c'est que le Kuomintang est coincé en fait à Taïwan sur cette question nationale dont vous venez de parler. Et il a historiquement fait un aggiornamento sur ce point. Mais cet aggiornamento date de la fin des années 90, à l'époque où le président du Kuomintang était taïwanais de souche, c'était Lee Teng-hui. Il a fait un travail qui aurait pu mener le Kuomintang à être beaucoup plus à même de gérer les réalités des relations dans les deux rives avec cette composante nationale taïwanaise. Malheureusement, en 2000, il a été débarqué par le parti lui-même suite à la défaite du parti au présidentiel. Et là, il y a eu une reprise en main extrêmement conservatrice du parti nationaliste dès l'année 2000, qui a vu finalement les conservateurs balayer l'héritage de Lee Teng-hui en jetant Lee Teng-hui lui-même. Et aujourd'hui, je pense que le Kuomintang continue à payer en fait cet aggiornamento abandonné.
Emmanuel Dubois de Prisque.
Oui, il est peut-être possible de nuancer un tout petit peu ce schéma. On voit quand même que Han Kuo-yu, donc le candidat du Kuomintang, a obtenu 1,7 million de voix de plus que donc son prédécesseur en 2016, donc il s'est quand même passé quelque chose. Il y a effectivement bien sûr cet aspect qui est absolument central des relations avec la Chine, mais sur le plan interne à Taïwan, il y a aussi, disons, cette division qui se fait jour et qu'on connaît entre le peuple et les élites, et Han Kuo-yu joue beaucoup là-dessus, c'est-à-dire il se présente comme un citoyen ordinaire, défenseur des citoyens ordinaires face à une élite du Minjindang, du parti au pouvoir, qui serait, lui, donc le représentant des élites. Donc il y a cette distinction qui lui a permis de prendre la mairie de Kaohsiung et la surprise d'un peu tout le monde à la fin de 2018, et qui, là, n'a pas fonctionné, peut-être parce que quelqu'un qui se présentait comme un homme du peuple avait du mal à incarner cette fonction présidentielle. On l'a vu, par exemple, bredouiller en anglais, alors que Tsai Ing-wen elle-même maîtrise parfaitement l'anglais. Donc il y avait un contraste entre cette personnalité très populaire Han Kuo-yu et Tsai Ing-wen qui représentait plutôt l'élite. Donc il y a aussi cette division et qui peut-être à terme serait intéressante pour le Kuomintang si les mouvements populistes qu'on connaît ailleurs continuent à prendre de l'ampleur.
Vous écoutez RFI, Géopolitique.
Alors, Mathieu Duchâtel, cette victoire de Madame Tsai Ing-wen, c'est d'une certaine manière une gifle pour Pékin. Elle a déclaré tout de suite après sa réélection que la Chine devait accepter le fait que Taïwan est déjà un pays indépendant. Qu'est-ce qu'elle a voulu poser, Madame Tsai Ing-wen, avec cette déclaration, Mathieu Duchâtel ?
Alors, elle l'a dit de manière très ferme après sa victoire. Mais ça reste la ligne. Et ce qu'il faut voir, c'est plusieurs choses. D'abord qu'elle reste malgré tout dans une approche assez défensive et non provocatrice. Elle ne parle pas d'établissement à Taïwan, d'une république de Taïwan, d'une déclaration d'indépendance. Elle reste dans une logique de défense du statu quo qu'on peut définir d'un point de vue taïwanais comme la survie à Taïwan d'une société démocratique ouverte dans les institutions de la République de Chine. Donc elle a cette approche qui est surtout défensive. Et puis ce dont on n'a pas parlé jusqu'à présent, mais qui est extrêmement important pour éclairer cette conversation, c'est malgré tout l'évolution de la situation à Hong Kong. Il faut voir que Tsai Ing-wen et le Parti démocratique progressiste ont subi une défaite cuisante aux élections municipales de novembre 2018, donc il y a seulement 14 mois. Et que le parti a effectué une remontée dramatique dans le contexte de Hong Kong, puisque ce qui reste la proposition de Xi Jinping et de la Chine à Taïwan, c'est la formule « un pays, deux systèmes », réaffirmée par Xi Jinping à l'égard de Taïwan au début de 2019 dans un grand discours de politique taïwanaise, mais aussi mise en œuvre à Hong Kong avec les résultats que les Taïwanais ont pu observer tout au long de l'année 2019 et qui ont donné beaucoup de crédit finalement à la ligne de Tsai Ing-wen et du Parti démocratique progressiste qui est « défendons ce qu'on a construit jusqu'à présent ».
Donc finalement, Stéphane Corcuff, sans Hong Kong, est-ce qu'on peut dire que Madame Tsai Ing-wen ne l'aurait pas emporté comme elle l'a fait dimanche dernier avec, je le rappelle, 57% des suffrages? C'est l'un des facteurs, mais un facteur important, vous confirmez par rapport à ce que vient de dire Mathieu Duchâtel?
Alors je suis tout à fait d'accord avec vous sur l'idée qu'il faut poser la question. C'est un facteur important, ce n'est pas le seul non plus. Et il n'est pas impossible que Taïwan aurait pu quand même emporter l'élection sans le facteur Hong Kong qui néanmoins l'a bien aidé. Quand on voit la courbe des sondages, la popularité de Tsai Ing-wen qui était assez émoussée après plus de 2 années de réforme, a commencé à remonter en fait un peu avant les événements de Hong Kong. Donc sa remontée en a bénéficié, c'est évident, mais ça n'est pas le seul facteur non plus. Elle a bénéficié déjà de ce discours de Xi Jinping qui lui a donné l'occasion de réaffirmer finalement ce que tout le monde sait à Taïwan et que Hong Kong a rappelé. Mais souvent, vous voyez dans les médias étrangers, on dit qu'effectivement la question de ce qui s'est passé à Hong Kong a montré aux Taïwanais qu'un pays de sixième, c'est pas pour eux. En fait, c'est pas exactement ce qui s'est passé. Les Taïwanais le savent tous. Simplement, ils sont pas toujours en train le nez sur la géopolitique. Ce qui s'est passé à Hong Kong leur a rappelé que la Chine à laquelle ils ont affaire eux-mêmes, en direct et pas via Hong Kong, la Chine reste le pays aux menées impériales qu'ils voient à l'œuvre chez eux et à Hong Kong. C'est ce que ça leur a rappelé. Maintenant, ce qu'il faut bien rappeler avec ces événements de Hong Kong, c'est que pour un Taïwanais, quand bien même les événements à Hong Kong ne se seraient pas passés, quand bien même le système mis en place à Hong Kong, un pays de système, se déroulerait bien, de toute façon, ils savent qu'un pays de système n'est pas pour eux. Donc il faut aussi relativiser ces événements de Hong Kong qui participent de cette dégradation généralisée de l'image de la Chine et qui confirme ce qu'ils savent déjà et qui est arrivé opportunément pendant la campagne électorale.
Alors, il faut dire, Emmanuel Dubois-Dauprisse, que l'histoire de Hong Kong n'est pas celle de Taïwan. Juste pour comprendre cette obsession de la Chine à la fois pour Taïwan et Hong Kong, sur quoi repose-t-elle ?
Pour la Chine, Taïwan, c'est une partie sacrée du territoire chinois. Les mentions du fait que Taïwan soit sacré, c'est dans la constitution chinoise. Alors, c'est assez curieux parce que c'est un vocabulaire religieux, alors même que le parti communiste se déclare bien sûr athée. Donc, il y a vraiment c'est vraiment central, en fait, cette idée que la réunification, le processus de renaissance de la nation chinoise sera pas terminé tant que Taïwan ne rentrera pas formellement dans le giron de la Chine. Alors, la situation est un peu curieuse parce que la Chine dit à la fois que Taïwan fait déjà partie prenante du territoire chinois, puisque personne ne peut dire le contraire. Et en même temps, elle dit qu'il faut réunifier les deux rives du détroit. Donc il y a une sorte de paradoxe de la position chinoise que la Chine assume parfaitement d'une certaine façon, mais elle refuse de faire la distinction entre ce qu'elle veut, son désir, et puis la réalité. Elle veut écraser en fait la distinction entre le désir et la réalité. Et ce qui explique sensibilité extrême de la Chine à toute forme de reconnaissance du fait que tout le monde sait que la République de Chine est un pays souverain, indépendant, qui contrôle ses frontières, sa monnaie, d'une certaine façon plus indépendant qu'un pays européen aujourd'hui au sein de l'Union européenne.
Alors, Mathieu Duchâtel, pour aller un tout petit peu plus loin, on va parler bien sûr, vous l'avez évoqué précédemment, l'appui américain et l'appui japonais à Taïwan. Je le rappelais en introduction, Taïwan, c'est aujourd'hui 23 millions d'habitants. Qu'est-ce qui fait la force de ce pays ?
Taïwan est aussi la 21e puissance économique mondiale, devant la Suède. On est quand même à un niveau de développement très, très important. Je dirais que ce qui reste une très très grande force de Taïwan sur le plan économique, c'est son positionnement vraiment très très spécifique dans les chaînes d'approvisionnement de l'économie, de l'information et de la communication. Taïwan est un fabricant de hardware. On le voit en particulier sur le composant crucial de toute cette chaîne d'approvisionnement qui est les semi-conducteurs. Une entreprise comme TSMC est l'entreprise qui construit toutes les puces, tous les semi-conducteurs pour les smartphones haut de gamme et qui n'a qu'un seul concurrent dans le monde aujourd'hui pour le haut de gamme, qui est Samsung. Elle a une place extrêmement importante dans l'économie taïwanaise. Et le fait que Taïwan, dans le hardware, est l'un des acteurs les plus puissants dans le monde, positionne Taïwan très bien, en fait. Positionne Taïwan de manière très stratégique pour ce qui est en train de se passer aujourd'hui, qui est la prochaine révolution numérique autour de la 5G, de l'intelligence artificielle, du big data, du cloud. Toutes ces entreprises taïwanaises vont saisir des parts de marché, vont pouvoir sans doute profiter du découplage entre la Chine et les États-Unis, puisqu'elles ont à la fois une intégration très forte avec les donneurs d'ordre en Chine et avec les donneurs d'ordre aux États-Unis. Et ça donne à Taïwan une certaine prospérité, d'une certaine manière, sur le long terme. Moi, ce qui m'a beaucoup frappé lors de mes passages à Taïwan en 2019, c'est de voir que finalement, la presse économique est complètement déconnectée des problématiques dont on parle aujourd'hui, des problématiques politiques sur l'indépendance, l'unification, les questions de sécurité, la survie de Taïwan. La presse économique regarde l'offre 5G, l'opportunité de croissance, à la fois du côté chinois et du côté américain. Et une entreprise comme Huawei, qui est la bête noire des États-Unis, achète énormément à Taïwan et de plus en plus. Et finalement, le lien entre une entreprise comme Huawei et la grande entreprise de semi-conducteurs taïwanaise TSMC reste très stable et en croissance. Et donc, on a une déconnexion entre cette dimension économique et la dimension politique qui donne à Taïwan un certain espace pour finalement survivre entre la Chine et les États-Unis.
Parce qu'on l'a bien compris, finalement, Taïwan bénéficie beaucoup de cette rivalité sino-américaine en termes économiques. On peut rappeler que la croissance économique de Taïwan dépasse actuellement celle de Singapour et de la Corée du Sud. Je rappelle, 23 millions d'habitants, c'est peu par rapport à la Corée du Sud, c'est peut-être probablement à peu près équivalent à Singapour, je ne sais pas, peut-être, voilà. Donc tout ça au bénéfice de la guerre commerciale américano-chinoise. La Chine, qui reste aussi le premier partenaire commercial de Taïwan. Il y a cette volonté du pays de s'en affranchir, notamment via un renforcement des liens avec les États-Unis. Les États-Unis qui pourraient devenir le deuxième partenaire commercial de Taïwan, dépassant l'ASEAN, l'Association des Nations du Sud-Est Asiatique. Stéphane Corcuff.
C'est tout à fait envisageable. Après, faire des prévisions serait un petit peu difficile pour moi. Mais ce qu'on peut dire, c'est que certains à Taïwan et aux États-Unis verraient ça d'un très bon œil, en complément de stratégies mises en place par Taïwan pour se désenclaver un petit peu de cette dépendance économique vis-à-vis de la Chine.
Emmanuel Dubois-Dubrisque.
Je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Ça reste compliqué puisqu'il y a un très fort tropisme, il y a des liens qui ont été créés pendant de longues années. Alors le découplage dont on parle beaucoup entre les économies américaines et chinoises, si elles se produisent, risque de poser quand même des problèmes aussi à l'économie taïwanaise qui est très, très dépendante aujourd'hui encore de la Chine. Mais on voit bien que l'effort du gouvernement de Taïwan consiste à ne pas mettre tous les œufs dans le même panier. fait en développant, par exemple, les liens avec l'Asie du Sud-Est, avec le Japon, bien sûr aussi, et les États-Unis.
Et puis l'Inde.
Et l'Europe, peut-être
et,
aussi.
Et on en parlera dans la deuxième partie de l'émission. On vous retrouve tous les trois, Stéphane Corcuff, Emmanuel Dubois de Prisque et Mathieu Duchâtel. Après le journal, à tout de suite.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Géopolitique, regard sur Taïwan. Nous retrouvons nos invités depuis Lyon par téléphone. Stéphane Corcuff, sinologue, enseignant à l'Institut d'études politiques de Lyon. Emmanuel Dubois de Prisque, chercheur associé à l'Institut Thomas More et co-auteur avec Sophie Boisseau-Durocher de La Chine et Le Monde aux éditions Odile Jacob. Et Mathieu Duchâtel, directeur du programme Asie à l'Institut Montaigne et auteur de Géopolitique de la Chine aux éditions Que sais-je. Washington a été l'une des premières capitales à adresser ses félicitations à la dirigeante de Taïwan, avec ses mots, sous son leadership, nous espérons que Taïwan continuera à servir de brillant exemple pour les pays qui se battent pour la démocratie, a déclaré le secrétaire d'État américain Mike Pompeo. Washington, qui on peut le rappeler, a rompu en 1979 ses relations diplomatiques avec Taipei, reconnaissant Pékin comme le seul représentant de la Chine. Les États-Unis restent toutefois leur allié le plus puissant et leur principal fournisseur d'armes. Est-ce que Taïwan trouve en Donald Trump un allié inégalé? Emmanuel Dubois de Prisque.
Je pense effectivement, enfin, la position de Donald Trump est ambiguë parce qu'on voit bien que avec cette mentalité transactionnelle dont on parle souvent à son propos, il peut-être avoir la tentation d'utiliser Taïwan comme une sorte de pion dans le cadre d'un jeu géopolitique plus large. Je suis pas sûr que les gens qui sont autour de lui soient nécessairement sur la même longueur d'onde, même si je suis pas un spécialiste des autorités américaines. Je suis pas sûr que Mike Pompeo ni le vice-président Pence soient vraiment sur cette ligne-là. Mais il n'en reste pas moins que, bien sûr, la question taïwanaise a pris une ampleur particulière dès le début du mandat de Donald Trump, avec ce coup de téléphone de félicitations dont Donald Trump a parlé sur Twitter et qui a secoué un petit peu les Chinois. On voit que les réactions à l'élection de Taïwan cette fois-ci, sous l'effet de cette rivalité sino-américaine pour une part, sont plus les réactions de la communauté internationale et des pays. Donc il y a une soixantaine de pays apparemment qui a félicité Taïwan de sa réélection, alors même qu'il n'y a qu'une quinzaine de pays aujourd'hui qui reconnaissent Taïwan. Donc on voit qu'il y a une plus grande visibilité de la question taïwanaise aujourd'hui, que les gens, sous l'effet de ce qui s'est passé à Hong Kong sans doute aussi, comme le disait Mathieu Duchâtel, la question taïwanaise est peut-être plus prégnante. Tout le monde est à peu près convaincu aujourd'hui que la réunification ne pourra pas se faire sans doute sur une base pacifique comme le souhaiterait Pékin, et que la seule solution pour qu'une réunification se passe, ce serait la force. Alors la force, bien sûr, ça reste très très hypothétique, fort heureusement. Donc on voit bien que la question taïwanaise a tendance à prendre quand même un petit peu dans l'opinion publique mondiale, si on peut parler comme ça, même si ça reste assez embryonnaire.
Alors la question qui se pose, Mathieu Duchâtel et Stéphane Corcuff, c'est de savoir finalement quelle place occupe dans la politique étrangère américaine Taïwan, également la politique étrangère japonaise. Mathieu Duchâtel.
Alors, je crois qu'il y a un terme qui est important pour parler des deux, à la fois des États-Unis et du Japon, c'est ce nouveau concept géopolitique d'Indo-Pacifique, ouais. Enfin, qui n'est pas si nouveau que ça, mais qui est en tout cas dans les politiques étrangères de nombreux États, les États-Unis, le Japon, qui ont été les promoteurs du concept à l'origine, hein, ça vient de chez Shinzo Abe, et qui du coup positionnent Taïwan de manière un petit peu différente dans leur politique étrangère, lui redonnent une certaine importance. Taïwan est extrêmement important, je pense qu'il faut le dire, pour les États-Unis dans le cadre de leurs relations avec la Chine, pour des raisons stratégiques, pour des raisons aussi de valeurs, la défense de la démocratie, des sociétés ouvertes en Asie. Mais avec cette idée d'Indo-Pacifique, qui est finalement d'une certaine manière une alliance de facto de pays autour de leur réaction à la montée en puissance de la Chine et de l'impact de la montée en puissance de la Chine sur les choix qui sont offerts aux États dans la région, c'est-à-dire entre démocratie et autoritarisme, mais en fait en termes de délitement du lien que ces pays ont construit avec les États-Unis. Il y a une question de crédibilité de la dissuasion américaine qui se joue énormément à Taïwan. Et quand on regarde les déclarations de Tsai Ing-wen après sa victoire, l'une de celles qui m'a frappé, c'est en réponse à Mike Pompeo, au message de félicitations de Mike Pompeo, le secrétaire d'État américain, de présenter Taïwan comme un bastion de liberté dans l'Indo-Pacifique. Donc la reprise d'un langage qui est exactement le langage de l'administration américaine, mais aussi du gouvernement japonais aujourd'hui, que Taïwan s'approprie d'une certaine manière pour se positionner dans un camp très clair, finalement, dans un camp qui est celui qui est menacé par l'autoritarisme chinois. Alors, ça simplifie un petit peu la situation, ça la peint de manière très noir et blanc, on va dire. Mais en tout cas, c'est le positionnement de Taïwan, des États-Unis et du Japon.
Emmanuel Dubois de Prisque.
Oui, il y a quelque chose qui me frappe de ce point de vue-là. C'est une forme de symétrie. Je dis pas, c'est pas du tout du relativisme ce que je vais dire, mais ça me frappe quand même. Non, la réaction de la presse officielle chinoise à l'élection de Taïwan, c'était de dire qu'il y avait eu des manipulations, des tricheries, et que des forces mauvaises et obscures l'avaient emporté. Et d'un autre côté, on voit qu'il y a aussi ce discours un petit peu manichéen, avec d'un côté le camp de la démocratie, des droits de l'homme, qui se dresse héroïquement face aux forces obscures chinoises. Et en fait, il y a quand même, je trouve, une dimension idéologique qui est de plus en plus prégnante d'un côté et de l'autre, avec l'idée selon laquelle les forces du bien s'opposeraient aux forces du mal, et les Chinois d'un côté et les Américains et les Taïwanais de l'autre portent ce discours. Alors ça se traduit au niveau interne taïwanais avec les lois anti-infiltration, anti-fake news, comme on dit, qui impliquent la possibilité de la fin d'une dispute civilisée qui est le propre de la démocratie, avec l'idée selon laquelle des gens qui sont face à vous et pensent pas comme vous peuvent s'exprimer de façon légitime. Et j'ai un petit peu peur, pour ce qui me concerne, que Taïwan et certains de ses alliés partagent de plus en plus le manichéisme propre aux Chinois.
Alors, Mathieu Duchâtel, il y a un continent dont on n'a pas encore parlé. On reviendra sur peut-être la place de Taïwan dans son environnement régional. Ce sont les Européens, parce que finalement, dans cette rivalité entre les États-Unis et la Chine, on voit bien les Européens être soucieux en permanence de ne pas fâcher Pékin. Et finalement, Taïwan, dans les débats en Europe, est totalement inexistante.
Alors, on voit bien que les Européens sont tétanisés par cette question, parce qu'elle met face à face deux priorités, on va dire, de la politique étrangère européenne, qui sont d'un côté le rééquilibrage de nos relations économiques et commerciales avec la Chine, qui est l'une des priorités de la Commission, mais aussi l'une des priorités de nombreux États européens, et de l'autre côté, la défense des valeurs démocratiques, mais aussi des droits de l'homme, qui est censée être l'un des points cardinaux de notre politique étrangère. Les Européens sont tétanisés par la question de Taïwan parce qu'ils concluent, un petit peu de manière préemptive et sans doute par erreur, qu'aller trop loin avec Taïwan aura un impact terrible sur nos relations économiques et d'investissement avec la Chine, alors que finalement, rien ne l'a vraiment démontré au fil des années. On a donc vu de la part des Européens des déclarations de principe sur ces élections, plus ou moins timide. Alors, l'une des plus timides a été la déclaration du ministère des Affaires étrangères français, qui a été un télégramme de félicitations aux Taïwanais pour les succès de leur démocratie locale. Le terme « local » étant sans doute, d'une certaine manière, de trop, qui affaiblit en tout cas beaucoup la portée de ce message de félicitations. Et on voit bien que, par exemple, sur le dossier concret, si on parle en termes concrets, l'Union européenne a annoncé dans sa stratégie de politique chinoise qu'on devrait négocier avec Taïwan un accord de protection de nos investissements bilatéraux. Alors, il y a des dimensions très, très concrètes dans tout ça. Il y a peu d'investissements taïwanais en Europe, mais il y a énormément d'investissements européens à Taïwan. Et finalement, on n'ose pas avancer parce que, à côté de ça, on a une autre négociation en cours avec la Chine d'un accord similaire de protection de nos investissements bilatéraux. Et la conclusion à Bruxelles, c'est qu'il ne faut surtout pas avancer avec les Taïwanais sans avoir avancé avec les Chinois. Et c'est finalement une décision qui est prise sans qu'on sache vraiment si c'est la bonne. C'est un petit peu une espèce de contrainte qu'on se pose.
Alors Stéphane Corcuff, l'Europe tétanisée par la question de Taïwan, est-ce que cela est vrai aussi en Asie ?
Alors, c'est un petit peu différent de la situation européenne. Je dirais que les Asiatiques sont des partenaires naturels de Taïwan et de la Chine et ont essayé pendant longtemps de se maintenir en dehors, disons, de ces conflits politiques avec plusieurs stratégies possibles d'évitement. Stratégie aussi d'être intermédiaire entre les deux, et rarement évidemment des stratégies d'être rangées du côté de Taïwan. Mais en Asie, il y a aussi un autre frisson qui agite les choses, et ce frisson évidemment c'est celui de ces relations économiques inégales que met la Chine en place petit à petit, qu'on a vu déjà depuis de très nombreuses années, hein, et notamment au moment où la Chine devient donc à tort ou à raison, on l'appelle cet atelier du monde dans les années 90-2000, et où elle commence à, disons, s'approvisionner beaucoup en Asie du Sud-Est en termes de matières premières et à réexporter ses productions plus haut de gamme. On note déjà dans ces années-là un frisson en Asie qui est de voir une sorte d'échange inégalitaire avec ses premiers produits manufacturés chinois. On en note un deuxième aujourd'hui qui est très sensible avec les nouvelles routes de la soie, qui est l'établissement d'un véritable impérium local. Et on sent qu'en Asie, il y a un certain nombre de frustrations face à la capacité ou l'incapacité partielle de la Chine d'honorer ses promesses en termes d'investissement, en termes de montant d'investissement, tout ça participant encore une fois d'une image un peu dégradée de la Chine, qui reste toujours vraiment en mesure de négocier beaucoup de choses, mais qui peut-être n'est plus en mesure de se présenter comme une alternative, disons, crédible comme future première économie du monde, et dans un schéma tout tracé, linéaire, où il n'y aura pas, disons, de contestation possible.
Emmanuel Dubois-Dupris.
Puisqu'on parle de l'Asie en général, il y a peut-être un pays dans les relations avec Taïwan dont on devrait parler, qui est l'Inde. Les relations bilatérales entre l'Inde et la Chine sont difficiles. Stéphane Corcus parlait des nouvelles routes de la soie. L'Inde se montre très très prudente, pour dire le moins, à l'égard de ce vaste projet. Pour ce qui concerne la politique de la Chine unique, l'Inde, lors de ses entretiens bilatéraux avec la Chine, ignore tout simplement cette question-là. La mentionne rarement, voire pas du tout, je crois. Et ça n'empêche pas la Chine de continuer à discuter avec les Indiens. Donc en Europe, peut-être qu'on se montre excessivement prudent en devançant les désiderata chinois sur cette question-là, parce que je dis pas qu'il faudrait reconnaître tout de go Taïwan, mais la fiction chinoise de la Chine unique, si l'Europe faisait ça et d'autres pays faisaient ça, cette fiction-là serait apparente à tous. L'empereur serait nu, pour utiliser une expression que chacun connaît.
Alors, l'obsession chinoise pour Taïwan, elle est vue côté américain comme une faiblesse. C'est pour ça sans doute que Donald Trump a plaisir à peut-être mettre le doigt là où ça fait mal. Mais qu'est-ce que l'on peut attendre de l'attitude de Pékin dans les années à venir ? Est-ce qu'il va y avoir poursuite d'une politique de fermeté ou au contraire l'option d'une approche plus souple ? On peut rappeler qu'à la fin du mois de décembre, il y a donc quelques semaines, Pékin a envoyé dans le détroit de Taïwan le Shandong, son premier porte-avions de conception 100% chinoise. Qu'est-ce que l'on peut dire de la tension entre les deux rives du détroit de Taïwan, Mathieu Duchâtel ?
Alors, la tension est moins forte que ce qu'on aurait pu craindre aujourd'hui. Il y a d'autres priorités aujourd'hui dans la politique étrangère chinoise. La gestion de la relation avec les Américains sur d'autres dossiers aussi, qui fait que malgré tout, la Chine, pendant cette élection, a été plus discrète que pendant les élections précédentes. Mais il reste plusieurs choses. D'abord que cette élection est un revers, je dirais presque personnel pour Xi Jinping, qui s'est saisi de la question de Taïwan et qui décide visiblement assez seul sur cette question. C'est ce qu'on entend en tout cas dans la région. Et que c'est aussi un deuxième revers consécutif de politique taïwanaise pour les Chinois. Il faut revenir à la période de Ma Ying-jeou, le président Kuomintang qui gouvernait de 2008 à 2016. La défaite du Kuomintang en 2016 a été vécue par les Chinois, qui considéraient avoir donné énormément de cadeaux à l'économie taïwanaise pendant cette période, comme un véritable échec qu'ils ont eu du mal à comprendre et qu'ils ont compris à l'époque, qu'ils ont analysé comme le fait que les échanges économiques qu'ils avaient encouragés par leur politique pendant cette période ont profité surtout au grand capitalisme taïwanais. C'était un petit peu ce qu'on disait en 2016. Aujourd'hui, en 2020, comment expliquer ce nouveau revers de politique taïwanaise pour Pékin ? Je l'explique par la situation de Hong Kong, par le discours de Xi Jinping, un pays de système. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont faire aujourd'hui ? Ils ont tout simplement deux options, aller dans un sens plus coercitif, ou aller dans un sens plus on offre des cadeaux transmis par l'opposition taïwanaise à la population taïwanaise. Et il y aura forcément un jeu sur les deux. Est-ce qu'ils peuvent aller vers plus de coercition sur le plan militaire ? Alors, je pense que c'est pas exclu, mais on n'en voit pas véritablement les prémices aujourd'hui. On aura de toute façon une phase de réflexion après cette défaite, qui est quand même une véritable défaite pour Pékin, qui aboutira à une décision dans les prochains mois, dans le courant de l'année 2020, sur plus de coercition ou plus de cadeaux, ou comment rééquilibrer entre les deux. Mais en tout cas, ce qui est très clair pour moi, c'est que la politique taïwanaise de Pékin ne peut pas rester telle qu'elle est aujourd'hui. Il faut une évolution.
Emmanuel Dubois-Dupris.
Oui, en fait, c'est vrai que la situation est très délicate pour Pékin, parce que jusqu'ici, Pékin pouvait se dire qu'il lui était possible de s'appuyer sur le Kuomintang, sur l'opposition. Mais que va faire le Kuomintang à l'issue de ces élections ? Manifestement, l'idée selon laquelle il faudrait se concentrer sur les relations avec la Chine pour avoir plus de croissance économique, cette idée-là, jusqu'à ce que la situation change, est morte. Donc, le Kuomintang est tenté de se localiser encore un peu plus que ce qu'il a déjà fait. Et là, ça voudrait dire que Pékin ne pourrait plus s'appuyer sur l'opposition taïwanaise. Donc là, on serait dans une situation très, très délicate pour Pékin et seule la coercition, d'une certaine façon, serait possible. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir l'analyse que fait, par exemple, la presse officielle chinoise de cette défaite. Et pour l'instant, ce qu'on voit simplement, c'est accuser les Américains, accuser des forces obscures, comme je le disais tout à l'heure, pas du tout une remise en cause de sa propre politique à l'égard de Taïwan, un peu de la même façon que les incidents à Hong Kong sont imputés aux forces étrangères, aux puissances étrangères. Alors on peut espérer qu'en interne, il y a plus de retours critiques, mais en tout cas, on n'en voit pas la trace aujourd'hui dans les discours officiels chinois.
Alors, au milieu de tout cela, Stéphane Korkuff, que va faire Madame Tsai Ing-wen durant les 4 ans à venir, ses priorités ?
Alors, pour répondre à cette question, peut-être je vais rebondir sur la question précédente, et finalement, elles sont très liées. Bon, je suis tout à fait d'accord avec ce que viennent de dire mes deux collègues, en partant d'un point central, et là, on peut réamener Hong Kong dans le débat. La succession des événements de Hong Kong et de la défaite du KMT à Taïwan sont pour Pékin finalement deux dimensions assez similaires. Un rappel aux réalités dures que cet impérium a beaucoup de mal à s'établir et que les marches sont véritablement rétives. C'est comme si sur les côtes de Chine, les crabes avaient secoué le cocotier quelque part. La disproportion des forces ne donnait pas à imaginer qu'on en arrive là et pourtant c'est bien le cas. Parmi les options qui sont sur la table, bon, moi je pense que un sursaut de coercition paraîtrait délicat dans la mesure où il serait immédiatement contre-productif du côté de Taïwan comme il l'a été pour Hong Kong et entraînerait inévitablement une crispation au niveau global avec les États-Unis. La poursuite du statu quo, du point de vue de Tsai Ing-wen comme du point de vue de Pékin, est sans doute, par défaut, l'option la plus probable à l'heure d'aujourd'hui. Comme l'a dit Mathieu Duchâtel, la politique chinoise sur Taïwan doit aujourd'hui être redéfinie. La dernière fois, probablement, que Pékin en a parlé collectivement, c'était au congrès de Beidaihe de cet été. Et à cette époque-là, il n'était pas encore absolument prévu que Tsai Ing-wen soit réélu. La situation est donc assez nouvelle et il est probable qu'il faille encore quelques mois pour que se précise la politique à venir des États de la Chine. Après, on a aussi les élections américaines. Ce qui veut dire qu'en fait, c'est pas seulement sur les quelques mois à venir que les choses vont se préciser, mais on a devant nous clairement 4 ans. Donc je reviens à la question que vous posez sur Tsai Ing-wen. Je pense qu'elle ne va pas varier de posture parce qu'elle défend la souveraineté de la République et même si la Chine populaire ne veut pas entendre parler de reconnaissance de l'existence de cette République de Chine à Taïwan, néanmoins le fait est là et en interne elle peut guère lui reprocher de défendre cette République et sa souveraineté. Donc derrière les rodomontades et les crispations de langage, la Chine continuera probablement à pratiquer ce qu'elle fait déjà depuis des années, c'est-à-dire en concevant finalement la faiblesse de sa force, de continuer à travailler sur l'économie pour lier les deux rives. Mais il y a depuis quelques années un nouveau facteur, qui est que Taïwan est aujourd'hui traversé par des actions chinoises qui sont pas tellement publicisées, qui ne sont pas ouvertes, et qui ne sont plus les vieux espions d'antan dont on pouvait parler à l'époque de Li Tenghui il y a 20 ans, mais plutôt présents sur la toile, influençant les médias et travaillant les opinions publiques via les réseaux sociaux. Donc l'avenir de la politique chinoise, finalement, c'est le présent. Elle est déjà dans cette politique-là, un petit peu comme à Hong Kong, quand tout le monde nous demandait « la Chine va-t-elle envoyer des chars ?» Bien entendu que non, puisque toutes les mesures qu'elle peut faire sont déjà en place pour déstabiliser la situation. Donc je pense que Taïwan, c'est plutôt ce qui va se passer avec, du côté de Taïwan, une absence de provocation, du côté de la Chine, des actions telles que je viens de les décrire, et concrètement, une continuation des échanges économiques avec compétition des deux bords.
Mathieu Duchâtel, en guise de conclusion, très rapidement.
Je dirais que cette élection montre que Taïwan a ses propres forces. La société est moins divisée qu'il y a une dizaine d'années. Mais elle montre aussi une faiblesse malgré tout, c'est que la situation crée une dépendance de plus en plus forte de la survie de Taïwan envers la crédibilité de la dissuasion américaine. Donc Taïwan doit beaucoup miser sur sa relation avec les États-Unis.
Merci, c'est la fin de Géopolitique. Merci à nos invités. Mathieu Duchâtel, je rappelle que vous êtes directeur du programme Asie à l'Institut Montaigne et auteur de Géopolitique de la Chine aux éditions Que sais-je. Emmanuel Dubois-Deprisque, chercheur associé à l'Institut Thomas More et co-auteur avec Sophie Boisseau-Durocher de la Chine Chine et le monde aux éditions Odile Jacob et Stéphane Corcuff, sinologue, enseignant à Sciences Po à Lyon. Géopolitique était signée Marie-France Chatin, Véronique Durand et Nathalie Laporte. Demain, l'émission sera consacrée à la justice pénale internationale et posera la question du poids de la Cour pénale internationale dans les affaires tourmentées du monde. À demain.
En partenariat avec la FECO.